particulièrement dans ce texte, personnellement, je l'ai pris dans l'axe de la croissance du chrétien. Alors, si on pouvait se donner 5 bonnes minutes, et qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que vous soulignez dans ce texte à propos de la croissance? Donc, la lecture et la parole est à vous.
Moi, je trouve 3 mots. Pardonner, connaître et vaincre. C'est 3 passages pour arriver à comprendre et à vivre.
Pardonner, connaître et vaincre.
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie du texte.
Alors, allons-y, si on peut l'afficher.
C'est le texte qui consiste à dire « N'aimez point le monde ». Donc la croissance du chrétien, vous en avez parlé, passe par se centrer de plus en plus sur Dieu et laisser le monde de côté. C'est peut-être pas facile à faire, mais c'est la volonté du Père.
Merci.
Moi, en fait, pendant qu'elle lisait, j'avais en même temps sous les yeux la version Louis II. Et à la place d'enfant, il parlait de petits-enfants. À la place de « je confirme », il disait « j'écris ». Donc en gros, que la parole de Dieu, lorsqu'elle est écrite, c'est une confirmation de Christ, en fait, de qui il est, de ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et « petits-enfants », en fait, ça me faisait penser à la foi du petit-enfant, en fait. Le Christ disait ressembler aux petits-enfants. Ceux qui ont leur cœur, en fait, vont entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a ce parallèle qui est fait entre l'amour du Père, donc qui fait que nous, en tant que petits-enfants, on se donne entièrement au Père, on fait sa volonté et on laisse le monde derrière nous.
Merci. Vous voyez, la prédication se fait peu à peu.
C'est le lien entre les deux que j'ai compris aussi à la lumière de ce qui a été dit. L'idée donc, qu'on a été pardonné,
oui,
parce qu'on a tous aimé le monde,
oui, hein,
mais que la parole de Dieu nous a fait la connaître. Et qu'elle nous a donné par l'Esprit la capacité de vaincre le monde.
Merci. Ce sera notre dernière, avant-dernière.
Ce qui me touche énormément, moi, c'est qu'il y a plusieurs générations qui se complètent, en fait.
Moi, ça me fait penser à un autre passage dans la Bible. C'est dans Matthieu. C'est il a dit, je suis le chemin, la vérité, nul ne va au Père que par moi. Et il y a le petit chemin et le grand chemin et l'autoroute. Et l'autoroute, c'est tous les trucs matériels où on est tous dans le confort. Comme là, on a les téléphones, les smartphones, tout ça. Au temps de Jésus, j'avais pas tout ça. Pour eux, moi, je me dis, c'était plus facile. Mais en même temps, je sais pas.
Merci. Allez, encore une parole.
Moi, ce qui me parle, c'est qu'il répète... Il dit, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement, et il le redit. Et puis, dans le deuxième passage, il dit, bah, maintenant, vous savez ce qui vient du Père et ce qui ne vient pas de lui. Et quand il y a un problème, on cherche toujours l'origine, d'où ça vient, c'est quoi la cause. Et bah, ça fait réfléchir à ce discernement qu'on doit avoir sur l'origine des choses. Et là, c'est dit. Donc, voilà.
Bah, c'est formidable. Merci beaucoup. Alors, donc... Quand j'ai médité la première fois ce texte, j'y ai vu en effet les générations et les trois étapes, on pourrait dire comme 3 étapes du chrétien. Donc l'enfance, l'adolescence et le fait d'être un adulte confirmé dans la foi, un père dans la foi. Donc ça va être les 3 petites étapes de ma méditation. Alors, si on pouvait mettre... Voilà, c'est très bien. Donc, vous voyez ici, ce que j'ai relevé, je ne dirai pas tout du texte, vous avez dit des choses formidables. Ce que j'ai relevé, c'est ici, quelle est l'enfance de la foi? L'enfance de la foi, c'est recevoir le pardon de grâce qui nous vient par Jésus-Christ. Le plan de Dieu, c'est premièrement d'aller à la rencontre des personnes dans ce monde afin qu'ils sachent qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Afin qu'ils sachent qu'ils ont reçu, qu'ils peuvent recevoir le pardon de Dieu. Je vous écris jeunes gens. Les jeunes gens, eux, ça représente en quelque sorte les adolescents qui ont des combats à mener à l'intérieur de leur propre existence, et aussi c'est l'âge des combats. Malheureusement, on parle beaucoup de la guerre, mais à la guerre, on n'envoie pas les vieillards. On envoie les jeunes, on essaie de leur donner un idéal, et c'est eux qu'on envoie au combat, parce que c'est l'âge du combat, en fait. Et puis, les pères, eh bien, ce sont ceux qui connaissent celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire Jésus. Voilà. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je vous le disais en introduction, l'enfance de la foi, c'est accepter le pardon. Recevoir le pardon. Et en fait, j'ai tout de suite une question à vous poser. Paul dit quelque part que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui donne gratuitement le pardon. Jean 2:1-2. Parce que ce passage du deuxième chapitre commence précisément par l'annonce du pardon et comment ce pardon nous a été obtenu par Jésus-Christ. Donc c'est juste pour que vous l'ayez sous les yeux. L'enfance, c'est le disciple en cours de formation. C'est celui qui est appelé à se reconnaître coupable devant Dieu qui a donné son Fils unique afin que nous ayons le pardon, la grâce et la vie. Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage ? Voilà, donc le pardon a pour but de nous faire franchir une nouvelle étape, c'est celui de l'obéissance. Mais avant, il faut avoir déposé devant Dieu, avoir été touché par l'Esprit, car c'est l'Esprit qui convainc de péché. Il faut avoir été convaincu par le Saint-Esprit de la rupture qu'il y a entre notre existence et le plan du Père. Et je voudrais vous dire, personnellement, et notre frère le sait, j'en suis resté longtemps dans l'enfance. J'ai longtemps été dans l'enfance de l'homme nouveau. J'avais besoin de pardon et les choses du monde étaient tellement présentes dans ma vie que j'avais encore besoin de pardon. Et les choses du monde étaient encore tellement présentes dans ma vie que j'avais encore et encore et encore besoin de pardon. Et je voudrais vous dire ce matin à tous qu'il ne faut pas se cacher de ce besoin. Parce que c'est comme ça que Dieu est venu à notre rencontre. Il est revenu, par exemple, je me souviens, j'ai été visiteur à l'hôpital et j'ai rencontré une dame, je ne vous raconterai pas son histoire, mais elle estimait qu'elle avait fait des choses tellement graves que Dieu ne pouvait pas la pardonner. Et en fait, dans le verset que j'ai cité, que personne ne se trouve privé de la grâce, ne se prive de la grâce, ne pas laisser de racines d'amertume. Et en fait, les racines d'amertume qu'il y avait dans sa vie étaient tellement empoisonnantes, tellement amères, qu'elle était continuellement, gravement malade. Alors, je voudrais au moins ce matin, à la suite de la parole de Dieu, vous dire que Jésus-Christ a payé le prix. Même si nous avons péché et encore péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Il a apaisé, c'est la traduction du semeur, la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. C'est ce qui déclenche l'enfance de la foi. Alors s'il y a parmi nous des frères, des sœurs, des hommes, des femmes à qui l'Esprit Saint rappelle à cet instant un besoin de pardon, eh bien, allez trouver quelqu'un à la fin de ce service. Allez trouver une mère, un père, un adulte dans la foi pour qu'il puisse vous déclarer « Jésus-Christ a vaincu le mal ». Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tu sois pardonné, toi, personnellement. C'est la première et c'est l'étape essentielle. Tu as été lavé de tout péché par le sang de Jésus. Ne reste pas comme cette dame de l'hôpital, enfermée dans ta condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout est grâce. Tout est grâce par le moyen de la foi. Dieu nous regarde comme à travers un écran. Et cet écran, c'est celui de la justification. De l'autre côté de l'écran, tu as encore des complicités avec ta propre nature, tu as encore des complicités avec le monde, mais quand Dieu te regarde, si tu t'es soumis à la croix, il te regarde à travers la croix et il te déclare juste, ce qui te permet de relever la tête et de progresser. Donc je termine ça, ne restons pas dans l'enfance de la foi qui consiste à en rester à ses balbutiements, mais franchissons l'étape en accueillant vraiment en soi le pardon de Jésus-Christ. Alors après, vous avez remarqué, est-ce qu'on peut remettre le texte de 1 Jean 2, 12, s'il te plaît ? Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus, à cause de son nom. Alors évidemment, là, il vous fait une prédication d'un seul coup. Le nom de Jésus, c'est quoi ? C'est tout ce qu'il a fait pour vous. Quand nous disons, quand nous parlons du nom de quelqu'un, surtout dans la Bible, eh bien, nous voulons parler de cette personne avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle apporte, tout ce qu'elle nous communique. Donc, à cause du nom de Jésus, vous êtes pardonnés parce que Jésus est celui qui communique le pardon. Et moi, j'ai choisi un verset, un passage qui m'est très cher. C'est Actes 10, 36 et suivant. Quand on pense au nom de Jésus, je le fais pour ma prière personnellement. Le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça m'apporte, le nom de Jésus ? Alors, bien sûr, on se rappelle les guérisons, on se rappelle les délivrances, on se rappelle les enseignements. Et Actes 10, 36, c'est la prédication de l'apôtre Pierre auprès du premier païen converti, Corneille. Et vous allez voir comment la parole de Dieu elle-même résume tout ce que le nom de Jésus peut nous apporter. Actes 10, 36, 37, 38, 39. Et quelqu'un pour le lire. Alors voilà tout ce que je me rappelle, moi, quand je pense à Jésus et au nom de Jésus. Et vous remarquez qu'au verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés par son nom. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien ça. Pensez à tout le ministère de Jésus, ces guérisons, c'est pour vous. Les délivrances, c'est pour vous. C'est pour nous, je peux me mettre dedans. C'est pour nous. Sa mort sur la croix, c'est pour nous. Et le but pour que nous puissions être en communion avec le Père, c'est le pardon absolu sur tout ce qui vient troubler notre conscience, tout ce qui vient troubler notre rapport à Dieu. Une mauvaise parole dans la journée, le mépris envers quelqu'un qui passe. Toutes ces choses ont besoin d'être quotidiennement pardonnées, couvertes par la mort de Jésus. Alors voilà le premier stade. Je vais conclure avec un texte qui ne paraîtra pas à l'écran. C'est en 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors donc, si quelque chose apparaît dans votre conscience, dans votre cœur, comme on dit en ce moment, n'hésitez pas à aller voir un père, une mère, pour avoir devant vous un témoin du pardon et de la grâce. Mais l'enfance, c'est aussi la période de la dépendance. C'est une des caractéristiques de l'enfance. Et alors, on s'aperçoit que dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin de modèles. C'est vrai qu'on a besoin de modèles. Mais si on s'appuie sur ces modèles, c'est aussi pour les dépasser. C'est normal s'ils en sont dans le champ de l'enfance. L'enfant se place sous la dépendance de tuteurs. Ils n'ont pas encore la connaissance de la parole de Dieu. L'enfant est centré sur ses besoins. Et il faut qu'il soit nourri dans leurs besoins pour ça. Donc, on va passer au stade des jeunes gens. Donc ça, c'est dans 1 Jean 2, 13. J'ai enlevé tout ce qui ne concernait pas les jeunes gens dans les versets 13 et 14, et je vous lis ce que ça donne. « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. » Et il répète, « Et que vous avez vaincu le malin. » Donc, on s'aperçoit que l'étape de la croissance du chrétien pour devenir comme un adolescent ou eh bien, c'est vraiment entrer dans le combat contre l'ennemi. Le célèbre auteur évangélique, celui qui a dirigé la collection du Semeur, écrit « L'adolescence, c'est l'âge des tempêtes. C'est celui de la lutte pour les valeurs. C'est la conquête de son indépendance, la découverte de soi et des autres. » Alors, quand on a franchi cette étape, quand on sait qu'on est un enfant de Dieu par le pardon de Dieu, on va s'engager dans la découverte des valeurs évangéliques, des valeurs qui sont portées par l'Évangile et qui consistent en fait dans le combat contre le menteur, contre celui qui nous trompe. C'est vous qui parliez, deuxième verbe, connaître. La connaissance du malin et l'appropriation des valeurs de Jésus-Christ. Victoire contre le péché, victoire sur le diable, et tout cela grâce à l'enseignement de la parole de Dieu. Parole écrite que la foi et l'expérience du pardon ont conduit peu à peu à devenir une parole vivante, une parole en acte, une parole qui s'actualise, la rencontre du Dieu vivant qui habite en nous et qui remporte des victoires contre le péché en nous, avec nous, par l'Esprit. C'est une très grande, j'espère que beaucoup d'entre vous l'ont faite, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont faite quand on entend les prières, les louanges, c'est vraiment une très grande expérience quand on remporte une victoire dans sa vie. D'étape en étape, on chantait quand j'étais un petit enfant, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Il peut y avoir de nombreux sursauts, de nombreuses batailles à mener dans notre existence. Mais nous avons une certitude. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Je veux bien vous donner ici un autre récit de ces batailles. Vous en avez certainement beaucoup d'autres en tête. C'est le récit suivant. Un jour, j'ai été appelé par une famille assez lointaine qui voulait absolument que je lui rende visite. Alors, je me suis déplacé, j'y suis allé, et la famille était une famille évangélique, une famille vraiment engagée avec l'Évangile, c'est ça que je veux dire, et ils avaient dialogué avec leur pasteur pour que je vienne aussi les visiter. Et en fait, le drame de cette famille, c'est qu'il y avait la petite fille aînée de 12 ans qui était inscrite et suivie à l'hôpital de Paris des enfants malades, et elle ne mangeait plus que 4 aliments dans sa vie. Elle avait les lèvres toutes crevassées, et les parents étaient pas désespérés puisqu'ils luttaient avec la foi, mais ils étaient vraiment très très éprouvés. L'enfant était au lit, je suis arrivé tard le soir, et on a commencé à prier ensemble, tous les trois, le mari, la femme et moi qui étais venu. Et nous avons demandé à Dieu de venir apporter la bénédiction sur chacune des personnes, une par une, le pardon sur chacune de ces personnes et la manifestation de sa grâce. Le mari, c'est sa femme qui l'avait converti. Il accueille la bénédiction comme une bonne terre. On le sent, on le voit, il devient de plus en plus heureux, plus on prie de bénédiction sur lui. Donc, ça se termine, évidemment, bien qu'on a toujours besoin d'être continuellement béni. Et après, je prie pour cette dame. Et tandis que je prie, il y a une manifestation démoniaque qui se manifeste. Donc comme nous l'avons appris dans l'Église, on prend autorité, elle est délivrée. Et puis maintenant, il était 23 heures, j'avais des kilomètres à faire, je dis, écoutez, on va se faire des rendez-vous, on va se revoir. Et je rentre. Et dès le lendemain, la petite fille allait déjà mieux. Donc il y a des combats, vous voyez-vous, quand on pense au combat et à la protection, à la persévérance, enfin, comme c'est marqué à la fin du texte, à la fin de notre texte, quand on parle de progression, on parle souvent de n'aimer pas le monde. Alors on pense à des sentiments, soi-même, il faut se préparer, il faut être fort. Non, je ne vais pas placer mon argent ici parce que c'est de la spéculation. Je ne vais pas faire confiance toujours à ça. Vous voyez ce que je veux dire? On pense à des choses morales. Mais en fait, la lutte contre le malin, c'est aussi la lutte contre les puissances. Ça a été dit tout à l'heure que dans la louange, les anges sont tellement joyeux devant le trône du Christ et de sa croix qu'eux, ils font la hola, mais que les puissances des ténèbres sont effrayés, crient et se manifestent. Donc, quand on pense aux combats que mènent aussi les adolescents, eh bien, il y a les combats contre les forces des ténèbres qui ont acquis des droits par génération. Et là, c'était le grand-père de la dame, la maman, le grand-père de la maman, qui avait été franc-maçon. Et les malédictions qu'on pose quand on est franc-maçon pour grandir, qui sont certainement cachées dans des rituels du 21e siècle, mais moi j'ai lu un rituel du 19e siècle, qui était du genre « qu'on m'arrache le foie si je trahis mes frères ». Eh bien ça, c'est une malédiction, et le monde des ténèbres s'en empare, et là, on voit comment c'était. Et on voit comment dans la croissance et dans le combat du jeune chrétien, en fait, toute l'Église est convoquée. C'est le lien qui nous unit, frères et sœurs. On ne peut pas seulement grandir en étant moralement très fort. Il y en a parmi nous qui grandissent parce qu'ils sont moralement très forts, mais il y en a aussi qui ont des héritages lourds. Il y en a qui se sont compromis dans des fautes qui ont attiré en eux des forces démoniaques, et on a besoin de l'Église. En fait, l'adolescent, c'est comme dans la famille. L'adolescent, il a besoin de sa famille pour grandir. Il a besoin de sa famille pour trouver ses combats, ses luttes. Devenir un adulte. Et avec l'Église, eh bien, Dieu nous a équipés pour apporter la liberté, la délivrance. Dans les Proverbes 20-29, on peut lire « La force et la gloire des jeunes gens. Donc, jeunes gens, ados, vous êtes équipés pour pouvoir, avec l'Église, avancer dans le caractère du chrétien. Et on a aussi cette belle recommandation de Paul à Timothée qui dit « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Paul a exhorté Timothée à se fortifier en accueillant toujours plus la grâce de Dieu. La force et le combat sont les signes de la jeunesse. Et je pense qu'en fait, on peut englober. Vous savez, on dit il y a des gens, bien qu'ils soient vieux, ils sont toujours jeunes. Eh bien, ici, le signe, ça serait que même en étant vieux, on est toujours axé dans le combat et dans la lutte. On ne s'installe pas dans ce monde, on ne s'installe pas dans la chair. Donc je pense qu'on peut englober dans ces jeunes gens tous ceux qui mènent des combats pour le royaume de Dieu. Je voudrais encore m'arrêter quelques minutes sur un texte que vous connaissez bien, c'est Éphésiens 6, 11. Ah, il est déjà là, voilà, 6-13, très bien. Alors donc, quand on combat, il faut une armure. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous lire ça? Bon, alors, vous avez sûrement entendu de nombreux messages sur ce texte. Perso, quand je prie, je m'agite. Alors, je dis, je me mets la ceinture de la vérité pour tenir ce qui est un peu mou, là, hein, qui va être frappé. Alors, qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Jésus. Chemin, vérité, vie. Donc, je me remets, Seigneur, de ta vérité à toi. Je mets cette ceinture. Après, ici, il a traduit par afin de pouvoir résister, tout ce qui tenait ferme, ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ça, c'est sûr, quand vous rencontrez des chrétiens qui ont une âme droite, ils sont forts dans nos combats, acquérir une âme droite. Mais personnellement, j'ai tellement été plié, comme un fil de fer plié, que la droiture n'était pas ma caractéristique. Alors, comme le texte original dit, revêtez-vous de la justice. Alors, je mettais ma ceinture et je disais à Dieu, Seigneur, moi, j'ai beaucoup de choses qui ne vont pas dans ma vie, mais je me couvre par devant et par derrière de ta cuirasse parce que c'est toi qui me justifie. Et c'est d'ailleurs un des premiers témoignages que j'ai entendu. Je me souviens, en tout cas, je ne sais plus si c'est Yong Guichot, mais il racontait qu'ils étaient en train de faire une délivrance et que là, le démon a commencé à accuser les conseillers presbytéraux qui étaient là. « Ah, mais toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. » C'est pour ça que j'hésite avec droiture, voyez-vous. Je suis hésitant dans cette traduction. « Ah, toi, tu as fait ça la semaine dernière. » Et celui qui raconte, donc le pasteur-chef qui raconte, il dit, ben, les conseillers presbytéraux, ils sont vite partis parce qu'ils ne voulaient pas qu'on en dise plus vite sur leur vie. Donc, mon perso, je dis, je ne suis pas juste, mais je suis déclaré juste par mon Sauveur. Et il le dit lui-même, le pasteur-chef qui raconte cette histoire, il dit, quand il nous enseignait, il disait, mais ils n'auraient pas dû s'enfuir. Ils auraient dû dire, ben oui, c'est vrai, mais je suis justifié par Jésus-Christ. Et toi, esprit mauvais, va-t'en. Donc, je pars au combat avec la ceinture de vérité qui est Jésus-Christ. Et je n'y vais pas au nom de ma droiture, de ma propre justice. J'y vais parce que Dieu m'a déclaré juste. C'est ça, amen. Après, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. La paix, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de paix? Ça, c'est une question. Hein. Quand on a reçu le pardon, quand on est en communion avec Jésus, quand la parole de Dieu nous nourrit, quand nous acceptons d'être déclarés justes, sommes-nous des hommes et des femmes de paix? Quand on va vers nous, est-ce que la personne qui nous voit se dit « Ah, ça, c'est une personne de paix. » Après, la foi comme bouclier. Ça va bien dans l'exemple précédent. La foi, c'est « Je ne suis pas en train de combattre contre le mal parce que je suis impeccable, mais parce que je suis justifié. » Ça, c'est la foi. Je ne m'étends pas plus. Le casque du salut. On en a parlé déjà tout à l'heure. Je le fais, moi, je mets mon casque. Hein. Je mets mon casque. C'est quoi le casque du salut? C'est que toutes mes pensées sont centrées sur le fait que c'est fait, je suis sauvé par la décision de Dieu. Que rien ne peut me séparer de son amour. Je suis sauvé. Et puis Romains 8 qu'on a cité tout à l'heure. En Christ, je suis plus que vainqueur. Quant à l'épée de l'esprit, ne jamais oublier la parole de Dieu. Chaque jour, lire la parole de Dieu. Je ne sais pas comment c'est pour les jeunes gens, mais quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, lire plus que 5 ou 6 versets, c'était déjà trop pour moi. Alors il existe des petits ouvrages qui s'appellent Les Frères Moraves, et puis il n'y a que 2 versets par jour. Ce casse-croûte-là m'allait très bien au début. Chaque jour, 2 versets, voilà, ça m'orientait. Et puis maintenant, donc, si vous avez du mal à lire la parole de Dieu, à l'approfondir, ne vous en faites pas. Ça va marcher avec Jésus. Ça va marcher. On commence là où c'est possible pour nous et on avance et Dieu nous fortifie. Le thème de ce message, c'est la croissance. Alors, on va passer maintenant à l'âge adulte avec les pères et les mères. Et leur caractéristique, c'est qu'ils connaissent. Connaissent, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé. Connaître quelqu'un, c'est l'appréhension. Moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je peux peut-être essayer de retenir leur prénom, mais Gérard et Pascal, ils savent que dans trois mois, quand je reviendrai, je leur redemanderai comment ils s'appellent. Pardon, mes frères, je ne vous connais pas. Connaître, c'est appréhender quelqu'un avec tout ce qu'il est, tel qu'il est. Appréhender Jésus, vous avez connu celui qui est le commencement, au commencement était la parole était Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Ça donne la maturité. Ça donne la vraie vie, pas la fausse vie superficielle. La vraie vie. Je connais Jésus, je te connais Jésus. Et je remporte avec toi, Jésus, la victoire contre l'esprit de ce monde. Qui m'assaille sans cesse, qui me tente. Le monde passe, mais toi, Jésus, tu demeures pour toujours. Et je veux grandir dans la connaissance. Les pères et les mères sont ceux qui ont cette relation avec le Sauveur. Personne, dit le psaume 49,9, ne peut payer le rachat de sa vie. Celui qui l'a racheté, c'est Jésus. Pourquoi tu as fait ça, Jésus? Comment tu l'as fait? Je veux te connaître. Chaque jour, on peut se lever en disant, Jésus, je veux te connaître. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père. Mais tout cela vient du monde, et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a un programme pour nous dans notre croissance. Il y a un programme pour nous dans notre croissance. Donc pour moi, ces versets, décrivent le but de la vie chrétienne, les traversées de l'enfance, la force de l'adolescence, et le but, c'est un approfondissement et une connaissance de celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire Christ. Dans l'Église, on l'a déjà vu à propos de, dans la Bible, mais dans l'histoire de l'Église, on l'a déjà vu à propos de Timothée, Paul est une grande figure paternelle. Et voici ce qu'il écrit, et ce sera ma conclusion dans les Colossiens. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous. Donc vous voyez, c'est un combattant, il est encore habité par l'adolescence et par la jeunesse. Pour ceux de l'Odyssée et de tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Afin que leur cœur soit consolé. Il faut dans l'Église qu'il y ait des pères et des mères qui prient pour l'Assemblée, qui prient pour les personnes qui viennent, afin qu'ils soient consolés. Ben, c'est un peu la soirée de témoignage de jeudi. Qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, afin de connaître le mystère du Christ. Approfondir le mystère du Christ. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. En Christ, Colossiens 2, 3, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà, donc soyez dans la croissance, fortifiez-vous, qu'il y ait beaucoup de pères et de mères parmi vous, que les jeunes dans la foi trouvent un support au sens anglais du mot, un encouragement permanent, et que la paix de Dieu habite toujours dans vos cœurs. Amen.